ambassadeur de l'Écuge. Merci.
Merci beaucoup, Gad Ibghi, donc directeur général de l'Écuge et de l'Institut Elie Wiesel. Shabbat shalom à vous.
Radio J, 14h, 15h, le grand journal.
Eva Souto.
Vendredi 13 juin 2025, merci d'avoir suivi cette édition spéciale consacrée bien sûr aux opérations militaires israéliennes contre le régime islamique iranien. L'entrée de Shabbat ce soir 21h27, sortie demain soir 23h02.
Bonjour, c'est Ilana Ferradian. Vous connaissez ma voix depuis une dizaine d'années maintenant, mais pas forcément mon histoire. Cette histoire, j'ai décidé de vous la raconter sans filtre, à travers mon livre « 7 ans à t'attendre, journal de bord d'une PMA ». Je m'y livre sans tabou, sur mon infertilité, à travers les nombreuses suives que j'ai dû endurer pour avoir ma fille, parce que c'est un sujet qui touche énormément de femmes et de couples dans la communauté. J'espère vous donner de la force et de l'espoir. « 7 ans à t'attendre, journal de bord d'une PMA », aux éditions David Reynarque.
Les cultures juives, ça se défend. Et l'Écuge aussi. Soutenir l'Écuge, c'est transmettre la richesse des cultures juives, lutter contre l'ignorance et renforcer une vie juive libre, ouverte et accueillante. Les 15 et 16 juin, on compte sur vous pour la première grande campagne d'appel aux dons de l'Écuge.
Et votre impact est doublé.
Oui, oui, chaque don compte double.
Double.
Alors rendez-vous les 15 et 16 juin sur allodon.fr/Écuge. Facile, allodon.fr/Écuge.
Bonjour à tous les auditeurs de Radio J, c'est Shirelle. Je viens le 23 juin au Palais des Glaces pour chanter Yen Tel and Me, un spectacle qui parle de femmes, qui parle d'Israël, qui parle d'identité. Et j'espère que vous viendrez nombreux pour l'association Netzar et Tzedek qui aide les enfants en Israël.
Réservation netzar1948.com.
Netzah1948.com et 0603 52 88 88. Shirelle. Sur la scène du Palais des Glaces le 23 juin.
Non mais quelle honte, il n'est pas 15h, il est 15h02. Et tout ça, c'est de ma faute, ce retard. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir un point complet sur l'information présentée par Nina Alouche. Bonjour Nina.
Bonjour Eva, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité, les menaces du régime islamique iranien contre Israël. Selon le président iranien, Israël regrettera ses actions. Ce matin, Tzal a détruit l'aéroport de Tabriz. Par ailleurs, des explosions ont également été signalées dans la région de Shiraz, dans le sud de l'Iran. Cette nuit, Israël a lancé une opération militaire contre le régime islamique et son programme nucléaire. L'opération baptisée Long qui se lève a permis de frapper une centaine de cibles stratégiques en Iran, notamment Natanz, le plus important site d'enrichissement d'uranium. L'opération n'est pas terminée selon Tzal, mais d'ores et déjà, le commandement iranien est affaibli. Le chef d'état-major et celui des gardiens de la révolution ont été éliminés, mais aussi le commandant de l'armée de l'air et avec lui toute sa chaîne de commandement, ainsi que plus de 10 figures centrales du régime islamique iranien. Le premier ministre Benjamin Netanyahou s'est exprimé à ce sujet.
Vous avez mené des premières frappes couronnées de succès. Mais je sais aussi, comme vous le savez, qu'il n'y a pas de guerre gratuite. Le plus important est de vous armer de patience, de foi en la justesse de notre chemin, de confiance en notre victoire. Nous allons accomplir de nombreuses prouesses grâce à vous, à nos soldats héroïques, avec l'aide de Dieu.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, pour ses frappes, 200 avions de combat israéliens ont été mobilisés. Une opération fulgurante qui se préparait depuis des mois. L'Iran n'a pas réussi à riposter pour l'instant. Les drones d'attaque envoyés ont été interceptés dans l'espace aérien saoudien et jordanien. Amman a affirmé que le viol de son espace aérien ne serait pas autorisé. Le gouvernement libanais aurait mis en garde le Hezbollah, lui signifiant qu'il ne tolérerait pas que le Liban soit entraîné dans un conflit qui ne le concerne pas directement. En cas d'écart, le Hezbollah emporterait l'entière responsabilité selon le gouvernement libanais. De leur côté, les Houthis ont exprimé leur soutien à l'Iran en déclarant « Nous condamnons fermement l'agression brutale d'Israël contre l'Iran et affirmons son droit total et légitime de riposter par tous les moyens nécessaires ». Le ministre des Affaires étrangères, Gideon Saar, s'est entretenu avec son homologue allemand au sujet des frappes contre ses cibles nucléaires et militaires en Iran. Le chancelier allemand a déclaré « Je voudrais le répéter, Israël a le droit de défendre son existence et la sécurité de ses citoyens. L'objectif doit rester clair, empêcher l'Iran de développer l'arme nucléaire », a-t-il affirmé. Donald Trump s'entretiendra aujourd'hui avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Il a par ailleurs réaffirmé le soutien des États-Unis à Israël tout en appelant à un retour des négociations avec Téhéran. L'Iran ne peut pas posséder la bombe nucléaire. Des discussions sont également prévues entre Benjamin Netanyahou, le président russe Vladimir Poutine et le Premier ministre britannique. En réaction, Emmanuel Macron s'est exprimé sur X, réaffirmant le droit d'Israël à se défendre et à garantir sa sécurité. Le président a par ailleurs convoqué à 11h un conseil de défense de sécurité nationale consacré à la situation au Proche-Orient. De son côté, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a exhorté tous les partis à éviter l'escalade.
Et la situation sur le terrain est notre première préoccupation et ma première priorité est la sécurité d'agents et de nos ressortissants dans la région. Nous appelons les parties à recourir à l'ensemble des moyens diplomatiques pour désamorcer la situation et la France se tient prête à contribuer à cet objectif en coordination étroite avec l'ensemble de ses partenaires. La France rappelle avoir exprimé à maintes reprises ses préoccupations au sujet de l'accélération du programme nucléaire iranien qui constitue une grave menace pour la sécurité du territoire national en violation des obligations internationales de l'Iran.
Jean-Noël Barrot en conférence de presse au micro de BFM TV. Par ailleurs, le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunira dans la journée pour examiner la situation en Iran à la suite des frappes israéliennes dans le pays.
Les infos week-end. Eva Soto.
Tous les dimanches, je vous donne rendez-vous à 6h20 et à 8h20 avec l'écrivain et ancien diplomate russo-ukrainien Vladimir Fedorovski, le personnage emblématique de la perestroïka, décryptage, histoire, anecdote. C'est tous les dimanches sur Radio J.
Radio J. Radio J.
Bonjour, c'est Ilana Ferradian. Vous connaissez ma voix depuis une dizaine d'années maintenant, mais pas forcément mon histoire. Cette histoire, j'ai décidé de vous la raconter sans filtre, à travers mon livre « 7 ans à t'attendre, journal de bord d'une PMA ». Je m'y livre sans tabou, sur mon infertilité, à travers les nombreuses suives que j'ai dû endurer pour avoir ma fille, parce que c'est un sujet qui touche énormément de femmes et de couples dans la communauté. J'espère vous donner de la force et de l'espoir. « 7 ans à t'attendre, journal de bord d'une PMA », aux éditions David Reynarque.
Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8. Radio J, 15h-16h30, Eva Soto.
Merci Nina, entrée du Shabbat ce soir à 21h27, sortie demain soir à 23h02 dans un tout petit instant sur Radio J, le rendez-vous de judaïsme au quotidien, la rabbanite Maria Chadray et enfin la chronique du président du consistoire de Paris. À tout de suite.
Bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat Be'al Otra, une veille de Shabbat assez particulière. Et oui, nous sommes la veille de Shabbat Be'al Otra, une paracha avec de nombreux sujets sur l'allumage du candélabre, sur les déplacements des enfants d'Israël, l'investiture des Lévi'im, enfin, une paracha particulièrement chargée dans une veille de Shabbat un peu particulière avec la situation en Eretz Israël et je serais tenté de commencer notre émission avec une réflexion sur la protection. Sur la protection, sur une invitation à être plus vigilant ce Shabbat que les autres Shabbatot, parce que le Shabbat a une force de protection, une force de paix qui est importante. Je vais le démontrer par le fait que le schéma Israël que l'on fait le soir, on fait le schéma Israël le matin, dans le cadre de l'office du matin, et on fait le schéma Israël dans le cadre de la tefila du soir. Et dans le cadre de la tefila du soir, le schéma Israël est encadré de 4 bénédictions, 2 avant et 2 après. Et la deuxième bénédiction qui est après le schéma est une bénédiction qui parle de protection. Hagen Badenu Verser Lenu Makat Oyev Dever Vechrev en semaine. On a dit qu'il y ait une protection, qu'on puisse se coucher en paix et qu'il y ait paix et tend sur nous ta souka de shalom. Et quand on est le vendredi soir, cette deuxième bénédiction après le schéma, un texte qui est tronqué. Il y a toute la partie de protection de demande à Hachem, Shomer et Armo Israël, qui garde son peuple Israël, qui est enlevé et qui est orienté sur le Shabbat. Et alors que normalement, quand on a fait bénédiction de Gaal Israël, la première bénédiction après le schéma, on doit enchaîner avec la prière. Sur principe, qu'on doit être sommaire, Geoula, Litfila, qu'on doit juxtaposer la délivrance qui est évoquée à la fin du schéma Israël, à travers la sortie d'Égypte, et qui est repris dans la bénédiction Gaal Israël qui délivre Israël. Eh bien, normalement, après, on doit enchaîner avec la Tefila, avec la prière. Tous les soirs, on a après Gaal Israël, eh bien, une sorte de Geoula, de délivrance rallongée avec une quatrième bénédiction du schéma, deuxième bénédiction après le schéma qui s'appelle Ashkivenu. Mais comme je vous ai dit, qui est différente, c'est un jour de semaine où ça évoque une notion de protection, avec le Shabbat où il n'y a pas cette protection, c'est le Shabbat qui lui-même protection. Mais encore, après cette bénédiction, on rajoute des versets, Veshamru, Béni Israël est à Shabbat, les enfants Israël garderont le Shabbat, et on lui dit, plus que on a pu garder le Shabbat, c'est le Shabbat qui nous a gardé, qui nous a protégé. Alors il y a une dimension de protection par le Shabbat qui est cette dimension de la sainteté du Shabbat, de la force du Shabbat, eh bien qu'on doit peut-être avoir plus à l'esprit, je dirais, ce Shabbat, avec une pensée pour nos frères et nos sœurs qui sont en Israël, où la situation n'est pas simple. C'est les échos, comme une ambiance un peu comme à la période du Covid, avec pas de rassemblement en public. Enfin, les choses changent de moment en moment. Donc, en espérant que ça aille vers le sens du bien et que les synagogues pourront se réunir dans les synagogues ou pas ce Shabbat. Toujours est-il qu'il va avoir cette notion de présence divine qui est une protection. Et cette dimension donc spirituelle qui doit avoir cette force de protection, car c'est l'un des aspects de cette symbolique de la menorah, du candélabre, qui est cette lumière qui est source de notre lien avec Hachem, notre lien avec Dieu, et de notre délivrance. Comme on voit dans le psaume 27, Hachem, Ori, Vishri, Dieu est ma lumière et mon sauveur. Et dans cette dimension de lumière, eh bien, il va avoir une continuité de cette présence. Très, très intéressant, parce que aujourd'hui, dans nos synagogues, on ne reproduit pas ce qu'il y avait dans le Beth Amikdash, dans le temple de Jérusalem ou dans le Mishkan, dans le sanctuaire. Par exemple, il est interdit de faire un candélabre en métal qui va ressembler à ce qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Je rentre pas dans les détails pratiques de ça, mais enfin, on n'a pas le droit de reproduire les objets comme ils étaient. Alors, on peut les faire un peu différemment, mais on peut pas les reproduire. Pourtant, il y a des choses que l'on reproduit, pas forcément dans leur forme, mais dans leur fond. J'entends par cela que si le candélabre qui est un symbole, qui est devenu un symbole de la Knesset aujourd'hui, qui est un symbole juif qui a précédé le symbole du Magen David, hein, de l'étoile de David, eh bien le candélabre est symbole de Ner Tamid, la lumière perpétuelle. Et quand on comprend la lumière perpétuelle, comprenez que le candélabre n'était pas destiné à être allumé, à rester allumé H24. Non, il était destiné à être allumé la nuit, depuis le début de la nuit jusqu'au matin. Toutefois, il y avait ce qu'on appelle Nerama Aravi, la lumière occidentale. Alors je rentre pas dans le détail technique de savoir c'est laquelle, on va dire simplement c'était la lumière centrale. Alors pourquoi on l'appelle occidentale ? Je développerai ça une autre fois. En tout cas, ce Nerama Aravi avait une particularité qui est un peu reliée à la fête de Hanouka, dans le sens où on mettait la même quantité d'huile dans ce godet que comme les six autres, mais alors que les autres s'éteignaient au matin, eh bien le Nerama Ravi, la lumière centrale, restait allumée jusqu'au soir, et restait donc pratiquement le double de toutes les autres lumières, et on pouvait comme ça allumer de cette lumière sur les autres lumières, et donc cette lumière était quelque part perpétuelle, même si, fondamentalement, on n'allumait pas pour qu'elle soit perpétuelle, mais concrètement, elle était perpétuelle. Et en souvenir de ce Nerama Ravi, dans la plupart des synagogues, vous avez une petite lumière au-dessus de devant le Aron HaKodesh, devant l'Arche Sainte, qu'on appelle le Nertamid, la lumière perpétuelle. Cette lumière perpétuelle, symbole de la présence divine, symbole de ce lien avec Hachem, qui est lié, évidemment, avec le lien avec la Torah. Voilà pourquoi il est devant le Aron HaKodesh, l'Arche Sainte. Et dans la plupart des synagogues, on a ce Nertamid qui est constamment allumé, qui ne s'éteint jamais. Bon, aujourd'hui, c'est évidemment électrique, hein, y a pas de souci. Et ce symbole, en fait, de cette présence, qui est un symbole d'une protection, évidemment, eh bien, on va le retrouver aussi dans la nuée qui dirigeait les enfants d'Israël, qui est écrit dans le paracha, de ce Hamoud Esh, cette nuée de feu la nuit, pour les éclairer, et cette nuée qui les protégeait du soleil le jour. Alpi Hachem Yachanouv, Alpi Hachem Yisaou, c'est sur la bouche, littéralement, sur l'ordre d'Hachem, qu'il décampait ou qu'il campait, qu'il voyageait ou qu'il cessait leur voyage. Eh bien, ça se remarquait surtout avec ce principe de ce Hamoud et Hanan, cette nuée. Et c'est très intéressant parce qu'il y avait la nuée qui montrait quand on devait partir, quand on devait s'arrêter, mais il y avait une action de l'homme. C'est dans cette paracha aussi, au chapitre 10, où on parle des deux trompettes. Alors ces deux trompettes qui étaient faites en argent, pas en or, des Hatzotrot Kesef, qui devaient être faites d'une seule pièce, Miksha. Très intéressant parce que ce miksha, d'une seule pièce, on le retrouve dans la menorah, dans le candélabre qui est au début de la paracha, mais on le retrouve aussi dans les chérubins, le propitiatoire, le caporet qui était le couvercle, qu'on pourrait dire, sur l'Arche Sainte, qui est aussi miksha. Miksha, c'est de cette pièce, une seule pièce, qui va être le symbole de l'unité, le symbole du rassemblement. Et ces trompettes avaient pour but de rassembler, alors soit rassembler les chefs des tribus si on sonnait dans une seule trompette, mais si on sonnait Utkatem Vitakru Baen, on sonnait en elle, c'est-à-dire en elle deux, c'était le rassemblement de toutes les de toute la communauté qui devait être rassemblée autour de Moshe. Ce qui était remarquable, on dit im tekiat, si on est dit utkatem teroua, si vous allez au verset 5, si vous allez sonner une teroua. Un terroir, c'est un son qui est saccadé. Alors, c'était le symbole du départ des camps qui devaient de voyager. Alors, c'est intéressant parce que on retrouve ici la terroir qui est aussi la sonnerie que l'on sonne à Rosh Hashanah. Et on va dire à chaque fois qu'il y a une terroir, c'est qu'il y a une té qui est avant, une té qui est après. C'est-à-dire quand il y a un son saccadé, tu 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 ou tu 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 tu, mais il y a toujours un son continu avant et après. Tut avant et tut après. Comme on le fait à Rosh Hashanah. Et alors, ce symbole, c'est le symbole de la mise en mouvement quelque part ou de se poser. Alors, c'est très intéressant de cette mise en mouvement signalée par les Chatzosrot, c'est-à-dire ces trompettes. Et à Rosh Hashanah, quelque part, on doit savoir faire teshuvah avec le shofar. D'ailleurs, c'est très remarquable puisqu'il y a marqué de Aselecha, fais-toi pour toi, et que ces trompettes, eh bien, après, même avant le décès de Moshe, ont été cachées, elles étaient enfouies. On les a pas gardées. Et quand Josué va faire la conquête de Jéricho, il y a pas de trompettes, il y a que des chauffarotes. Alors, je rentre pas dans toute la description entre les trompettes et les chauffarotes, parce que quand on sonne des trompettes, on sonne aussi des chauffarotes. note et les deux étaient ensemble. Mais ces trompettes, c'était à certains moments, à certaines époques, dans certaines conditions. Aujourd'hui, il nous reste le chauffard, mais dans tous les cas, eh bien, il y a cette dimension où on retrouve dans notre paracha, chapitre 10, verset 9, c'est notre paracha. Véritavo milchama be'artzechem, ici il y a une guerre. Si on parle de guerre dans cette paracha. On parle pas de guerre dans toutes les parachas. C'est pas la seule seul endroit où on parle de guerre. Mais en tout cas, on en parle. Véritavo milchama be'artzechem alatzar atzoretrem va'arei otem b'chatzosrot. Vous allez sonner dans les chatzosrot. Alors, eh bien, on va souhaiter une protection pour tout le clan d'Israël et nous renforcer en plus. Si en Israël, ce sera peut-être plus difficile dans le respect du Shabbat, eh bien, à nous de prendre le relais. Que si en Israël, ils ont eu des difficultés pour se rendre à la synagogue pour des raisons sécuritaires. Alors nous, en prenant évidemment toutes les précautions au niveau sécuritaire, on va aller se rendre à la synagogue un peu plus ce Shabbat, par solidarité, par confiance, et respecter un peu plus ce Shabbat, d'être un peu plus attentif en chacun, suivant son niveau. C'est le Shabbat est extraordinaire et toute personne a une possibilité d'affiner son respect du Shabbat en lui donnant une dimension supérieure, que ça soit au niveau du comportement ou de la parole. La parole Vedaber d'avoir, c'est très important la parole. Le jour du Shabbat, on ne doit pas dire des choses qu'on ne peut pas faire. Oui, chose qu'on ne peut pas faire. Le Shabbat, on ne doit pas les dire non plus. Alors, on le fait, on ne va pas rabrouer une personne, on le fait avec douceur, avec force, avec, je dirais, délicatesse. Et de cette façon, je lève mes yeux vers le ciel. D'où vient mon aide? Ezri, Me'im Hashem, mon aide. Vient d'Hachem, le psaume 121. C'est le psaume 121, Shir Lamaalot Esaenai. C'est le seul psaume qui commence avec le chant pour les degrés. Tous les autres, c'est Shir Hamaalot, psaume des degrés. Et ce, c'est Shir Lamaalot. Faut pas faire d'erreur sur ce psaume. Et à propos de psaume, je pense que c'est une bonne période pour lire des psaumes et je serais tenté de vous inciter ce Shabbat, que ça soit au niveau individuel ou au niveau collectif. C'est la force du Kahal, de la collectivité, pour faire des prières ou pour lire des psaumes, et d'une puissance incommensurable que je ne pourrais que vous encourager à faire, à diffuser, pour lire des psaumes. Alors, on peut lire des psaumes, c'est d'une façon générale, le Shabbat, on peut lire des psaumes sans discontinuité, que ce soit le soir ou la journée. C'est vrai que d'après la Kabbalah, d'après les écrits kabbalistiques, on ne lit pas la Torah écrite, c'est-à-dire l'ensemble de la Bible, la première partie de la nuit, c'est-à-dire depuis le début de la nuit jusqu'à Chatzot, jusqu'à le milieu de la nuit. Mais ça peut être encore discuté, parce que quand on est en période difficile, quand il y a par exemple, on doit faire des télim, des psaumes pour une personne qui est malade et qui a besoin de télim, ou quand on a une situation d'urgence, une situation difficile, alors on peut lire des psaumes à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, il n'y a pas de souci. Mais de toutes les façons, le Shabbat, il n'y a pas cette restriction. Le Shabbat, on peut faire des Tehillim. Même la première partie de la nuit, c'est la puissance de la lumière du Shabbat. Alors, un autre point, c'est bien de lire beaucoup de psaumes. Mais c'est pas au kilo. Et j'aurais tendance à vous conseiller plus de lire. Alors, c'est vrai que les Tehillim, c'est difficile à comprendre. Mais essayez de comprendre un petit peu, de lire peut-être la traduction dans le mot à mot, peut-être quelques commentaires, et de les dire avec ferveur, avec du sens, de bien les articuler, de bien les prononcer. Il est préférable, on peut les lire en français. Oui, c'est aussi valable, mais c'est pas la même valeur, c'est pas la même puissance que dans la langue sainte, évidemment, puisque dans la langue sainte, il y a un florilège de sens et d'une puissance qui s'exprime parce que c'est la langue sainte. Alors, En langue sainte, ça vaut mieux, même si on en fait beaucoup moins. Vous pouvez peut-être lire une première fois en français et le même psaume après en hébreu, parce que comme ça vous connaissez un peu le sens, et de pouvoir lire ces psaumes, c'est quelque chose d'important. On en reparle après quelques notes de musique.
de Shabbat et elle continue dans un tout petit instant le point avec l'information présentée par Nina Alouf.
Bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité, les menaces du régime islamique iranien contre Israël. Selon le président iranien, Israël regrettera ses actions. Ce matin, Tzal a détruit l'aéroport de Tabriz. Par ailleurs, des explosions ont également été signalées dans la région de Shiraz, dans le sud de l'Iran. Par ailleurs, des drones iraniens ont été abattus dans la région du lac de Tipériade. Un barrage de roquettes a été lancé depuis le Liban en direction des localités israéliennes. Les gouvernements libanais auraient mis en garde le Hezbollah, lui signifiant qu'il ne tolérerait pas que le Liban soit entraîné dans un conflit qui ne le concerne pas directement. Un incendie s'est déclaré sur les hauteurs du Golan en raison de débris interceptés. Donald Trump s'entretiendra aujourd'hui avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Le président américain a réaffirmé le soutien des États-Unis à Israël, tout en appelant à un retour des négociations avec Téhéran. L'Iran ne peut pas posséder la bombe nucléaire. Des discussions sont également prévues entre Benjamin Netanyahou, le président russe, et le Premier ministre britannique. Par ailleurs, le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunira dans la journée pour examiner la situation en Iran à la suite des frappes israéliennes d'envergure dans le pays. Emmanuel Macron s'est exprimé sur X, réaffirmant le droit d'Israël à se défendre et à garantir sa sécurité. Le président a par ailleurs convoqué à 11h un conseil de défense de sécurité nationale consacré à la situation au Proche-Orient. Enfin, Air France suspend jusqu'à nouvel ordre ses vols entre Paris et Tel Aviv, annonce du porte-parole de la compagnie aérienne. Plusieurs compagnies ont elles aussi suspendu leurs vols dans le Golfe après les différentes frappes israéliennes et iraniennes. Les compagnies aériennes israéliennes, quant à elles, estiment que l'aéroport Ben Gurion restera fermé pendant au moins 3 jours.
Bonjour à tous, c'est Léa Moscona.
Radio J.
Je vous retrouve tous les matins de 9h à 10h sur Radio J. Les experts ont la parole. Ils nous parlent bien-être, voyage, culture, gastronomie et art de vivre. Le tout dans la bonne humeur.
Le 9-10, Léa Moscona.
Radio J.
Les cultures juives, ça se défend. Et les Cuges aussi. Soutenir les Cuges, c'est transmettre la richesse des cultures juives, lutter contre l'ignorance et renforcer une vie juive libre, ouverte et accueillante. Les 15 et 16 juin, on compte sur vous pour la première grande campagne d'appel aux dons de les Cuges.
Et votre impact est doublé.
Oui, oui, chaque don compte double.
Double.
Alors rendez-vous les 15 et 16 juin sur allodon.fr/écuges. Facile, allodon.fr/écuges. Vous écoutez
Radio J.
Radio J.
Radio J.
Notre version de Shir LaMaalot, de ce fameux psaume des degrés. Et mais dans notre paracha, il y a deux versets assez intéressants, et surtout dans cette période. On est au chapitre 10, verset 35. Les versets 35 et 36 sont des versets qui ont une particularité, c'est qu'ils sont encadrés dans le Sefer Torah, avec une sorte de parenthèse qui sont en fait des nouns écrits à l'envers. Alors c'est une curiosité assez remarquable. Et sur ces nouns écrits à l'envers, il y a à dire, et on va revenir là-dessus, mais que signifient ces deux versets en hébreu? C'est Vayi bin Soa Aaron, Vayomer Moshe, Kuma Hashem, Vayafut Soivera, Vayanus Mesanecha, Mipanecha. Peut-être vous avez reconnu qu'il s'agit ici des versets que l'on lit quand on ouvre l'Arche Sainte pour sortir le Sefer Torah. Et ce verset dit, lorsque l'Arche voyageait, Minsoa Aaron, alors c'est intéressant, quand on sort le Sefer Torah, c'est pas l'Arche qui voyage, c'est le Sefer Torah. Le Sefer Torah qui, en fait, emporte avec lui le plus important de l'Arche. Donc quand l'Arche voyageait, Moïse disait, lève-toi Hachem, Kuma Hachem, Veyafut Soivera, que tes ennemis se disperse et que ceux qui te haïssent fuient devant toi. C'est intéressant. Que tes ennemis se dispersent. Et puis alors, quand lorsqu'elle faisait halte, c'est le verset que l'on dit quand on rentre la Torah et on remet le rouleau de la Torah dans l'Arche Sainte, eh bien, il disait Shuva Hashem, Rivevot Alfei Israël, réside sereinement au Hachem parmi les myriades des milliers d'Israël. Alors, ces deux versets qui sont donc encadrés avec ces nouns, que signifie cette anomalie dans le texte? Alors, on va avoir plusieurs explications. La première explication, celle du Rokéar, Rabbi Eliezer de Worms, qui dit que on voulait faire passer aux enfants d'Israël le Jourdain, Yarden. Yarden, c'est Yered Nun, ce qui descend du Nun. Et le Noun qui évoque la Néphila, la chute, c'est pour ça que dans le psaume 145, où vous avez en acrostiche tout l'alphabet sauf la lettre Noun qui évoque la Néphila, eh bien, on voulait donner aux enfants d'Israël la possibilité d'avoir cette force du Noun pour rentrer en Israël, mais passer le Jourdain. Et les enfants d'Israël n'ont les noms des tribus. Quand on va prendre Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, etc., il y a 50 lettres. Pour écrire l'ensemble des 12 tribus, on a besoin de 50 lettres. Alors c'est intéressant ce lien entre les 50 lettres. Et finalement, ce qui va se passer, On va le remarquer surtout dans la paracha de la semaine prochaine. Vous savez, on a toujours en perspective ce qui arrive après. Et dans la paracha de la semaine prochaine, on dit que les enfants d'Israël sont à la veille de l'entrée en Israël, mais ils veulent envoyer des explorateurs. Et l'envoi de ces explorateurs va entraîner la catastrophe de l'exil pendant 40 ans dans le désert, hein, comme vous le savez. Et donc, ça va être quelque part ce noun renversé. Alors c'est une lecture. Le Baal HaTourim, Rabbi Yaakov Baal HaTourim, le fils de Rabbi Asher Ben Yechiel, qui venait d'Allemagne et qui a vécu essentiellement en Espagne à une époque où il était difficile de vivre dans l'Europe avec les croisades, etc. Alors lui va dire qu'en fait la place de ces deux versets, c'est 50 paragraphes avant, 50 parachiotes. Quand on parle de parachiotes, on parle de paragraphes qui va de blanc en blanc dans le Sefer Torah. Et bien quand vous remontez 50 parachiotes avant notre paracha, eh bien, vous allez tomber dans les massaot des enfants d'Israël, les déplacements des enfants d'Israël. Alors, ça va avoir un sens assez particulier. On va avoir une autre explication, qui va être que, petite introduction, on va donner cette autre explication, c'est que, il y a un principe assez important qui est marqué, c'est qu'on nous dit qu'il y a 600 000 lettres dans la Torah. Pourquoi 600 000? Eh bien, en fonction du nombre des enfants d'Israël quand ils sont sortis d'Égypte. Alors, comme on l'a vu la semaine dernière, la semaine d'avant, exactement, ils étaient 603 550. Mais enfin, au moment de la sortie d'Égypte, ils étaient 600 000. Alors, peut-être c'était un chiffre arrondi ou c'était peut-être 600 000. Et donc, on va voir un lien intéressant entre les 600 000 êtres qui sortent d'Égypte et les 600 000 êtres de la Torah. Et ça va avoir un sens assez fondamental parce que le nom de Israël, c'est les initiales de la phrase Yesh Shishim Ribo Otiot la Torah. Israël, c'est il y a 600 000 lettres dans la Torah. Alors c'est très bien, sauf que il y a une petite difficulté, c'est quand on compte vraiment les lettres, on va en trouver qu'il n'y en a pas 600 000 mais 304 805. Voilà, c'est le chiffre exact. 304 805 lettres, c'est le nombre de l'ensemble des lettres qu'il y a dans les 5 livres de Moshe, dans le Pentateuque. Alors, comment on retrouve 600 000? À cela, il y a évidemment de très nombreuses réponses. Une réponse, c'est que il y a ce qui est écrit, je dirais, noir sur blanc, et ce qui va apparaître du blanc sur le noir. Autrement dit, les parties blanches qu'il y a entre les lettres peuvent avoir aussi un sens, et ça va être le complément de ces lettres, on va dire, en blanc, qui se trouvent dans le Sefer Torah. Ou par exemple, si on prend dans le Sefer Torah la lettre P. Alors ça, il faudrait... j'ai pas le visuel à vous proposer, mais imaginez, la lettre P, comme elle est écrite dans le Sefer Torah, à l'intérieur de la lettre P, on peut voir en blanc la lettre Bet. Et c'est très très significatif. Alors donc, il peut avoir cette notion de des blancs qui sont aussi porteurs de sens, un peu comme un silence dans la musique qui est aussi porteur de sens. Un silence de Mozart, c'est encore du Mozart. Un mavdil, elef à la fille mavdalot. Mais en tout cas, il y a un sens dans les blancs. D'ailleurs, on retrouve ce principe par le fait qu'il y a des blancs entre les parachiotes, entre les paragraphes de la Torah. Alors, soit le scribe, quand il écrit le Sefer Torah, et ça, c'est comme ça dans tous les sefarim, hein, dans tous les livres de la Torah, eh bien, soit il va à la ligne, soit il reste sur la même ligne, et il laisse un espace de neuf lettres, ce qu'on appelle paracha Setouma ou paracha Petoura, et c'était en fait le temps de silence que Dieu laissait à Moshe pour réfléchir sur le message qu'il avait reçu et pour pouvoir bien l'approfondir. Comme quoi qu'il y a un temps de réflexion qui est nécessaire après l'étude, sur l'étude. Alors ce temps, c'est encore porteur de sens. Il y a une autre lecture qui va être que on peut voir certaines lettres comme composées de plusieurs lettres. Par exemple, la lettre Shin, dans le Sefer Torah, on pourrait dire que c'est trois vaves qui sont reliées par leur base. La lettre Lamed, par exemple, ça peut être un kaf avec un vav qui le surmonte. Ou la lettre Mem, ça va être encore la lettre kaf qui va avoir un vav devant qui va être adossé au kaf. Et c'est comme ça qu'on pourra voir la lettre Mem. Ou par exemple, le Mem final, la lettre finale du même soffit, ça peut être deux dalettes qui s'emboîtent et qui forment donc ce carré, etc., etc. Donc le aleph, ça peut être un yud sur la droite, un vav en diagonale et soit un dalet en bas, soit un yud aussi en bas, enfin suivant les possibilités. Et donc il y a un certain nombre de lettres qui peuvent être décomposées en plusieurs lettres. Bon, la lettre yud ou la lettre vav, elles ne peuvent pas se décomposer. Et c'est comme ça qu'on pourra se retrouver de 304 805 lettres à 600 000 lettres. Une autre explication va être que on compte les lettres aussi du Targum Unculos, de la traduction de la Torah en araméen, parce que dans les textes on dit que cette traduction en araméen n'est pas le fruit de la pensée de Nicolas de Unculos, d'ailleurs lui-même l'a reçu de ses maîtres, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, qui l'ont reçu de tradition jusqu'au Sinaï. Rappelez-vous que l'araméen était la langue maternelle des enfants d'Israël, dont les mères, Rachel, Eléa et Bila et Zilpa étaient les filles de Lavan à Arami. Donc ils avaient un petit peu aussi au niveau linguistique ce lien avec l'araméen. Et donc c'était un peu normal qu'on reçoive la Torah aussi avec araméen, d'où l'importance de la lecture de Shnei Mikra Vechatargum, cette obligation de lire deux fois le texte de la Torah et sa traduction en araméen. Donc il y a une place importante. Mais j'arrive à l'explication pour moi principale et qui justifie que je vous parle de cela, c'est que il y a une opinion qui va nous dire qu'en fait ces deux nombres renversés viennent nous signifier qu'il y a ici en fait un livre qui se trouve entre ces deux nounes. Et donc la Torah, d'après cette explication, n'est pas composée de cinq livres, des Chamisha Chumshei Torah, comme on a l'habitude de le dire, mais de sept livres. Comment de sept livres? Eh bien, il y a le livre de Bereshit, la Genèse, Shemot, l'Exode, Vaïkra, le Lévitique. Mais quand on arrive au livre des nombres, il y a trois livres dans ce livre. En effet, il y a le livre des nombres depuis le début du livre jusqu'au premier Noun, hein, qui est avant Vaïbin Soharon. Après, il y a un livre qui va du premier Noun au deuxième Noun, 85 lettres, je sais que c'est fait court, mais on va revenir. Et puis après, un autre livre du deuxième nombre jusqu'à la fin du livre du nombre. C'est-à-dire que le livre des nombres est en fait composé de trois livres. Et donc, en lisant la parasha de la parasha de cette semaine, c'est comme si qu'on lisait trois livres. C'est un petit peu comme une Simrat Torah. Simrat Torah. Bon, et puisqu'à Simrat Torah, on sort trois rouleaux de la Torah, au moins. On sort plus, mais enfin, on lit la parasha Vezot HaBeracha, la fin de la Torah, on lit Bereshit, le début de la Torah, et puis le Maftir, comme on le fait chaque fête. Et là, on a, avec un seul Sefer Torah, un livre qui se termine jusqu'au premier Noun, un livre d'un premier Noun au deuxième Noun, et un troisième livre qui commence à partir du deuxième Noun et qu'on ne finit pas, qui est sur la suite. Mais là, en donnant cette explication, on va voir donc que, après on a le livre de Devarim, évidemment, le Deutéronome, et donc ça veut dire qu'il y a sept livres de la Torah, donc les trois premiers, Bamidbar qui est composé de trois livres, et le livre de Devarim, ça fait sept livres. D'où le principe de candélabre qui au début de notre paracha, qui est le symbole de la lumière lié à la Torah, composé de sept branches, comme les sept livres de la Torah. Mais là, vous allez me dire, il y a quand même une petite difficulté. C'est quoi? C'est que il y a un livre qui est vraiment court, comme on vient de le dire, 85 lettres du premier noun au deuxième noun, ça fait un peu léger. Alors, il y a une explication très intéressante qui va nous dire que, en fait, entre ces deux nouns, il y a un livre qui est caché. Un livre dont on a le premier verset, dernier verset, d'ailleurs c'est très intéressant, parce que les Vaïmin Soharon et Ouvnou Riomar, ces deux versets, sont sur la même structure que le dernier et le premier verset du Chumash. Hein, le Bereshit Bara Elokim et Hashem et Haaretz, c'est le même lettre, même long de mots, pardon, que le deuxième verset entre deux nouns. Et le premier verset entre deux nouns, Vaïbin Soharon, c'est exactement le même nombre de mots que le dernier verset de la Torah. Ça veut dire que quelque part entre ces deux nouns, c'est un livre qui se trouve, mais pas seulement un livre qui a pratiquement la longueur de l'équivalent de tous les autres livres, et c'est un livre qui est un livre caché. Et un livre caché, donc on n'a pas, alors où il se trouverait, comment, ce serait peut-être un dévoilement qu'il y aurait au moment des temps messianiques, et qu'on a perdu parce que justement, on a les Noun renversés, le Noun qui évoque la Néphila, la chute, et qui, comme il est renversé, bien va montrer en fait ce fait que il y a un renversement, un manque. Et donc, on a donc dans notre paracha à travers ces deux versets, Vayi bin Soaron et Vounou Royomar, ces deux versets qu'on dit un au moment où sort la Torah et un quand rentre la Torah, et entre les deux, ben on va lire la Torah avec un lien avec un livre secret. Et ce livre secret, ben c'est le complément des 600 000 lettres que nous manque par rapport aux 304 000 qu'on a, 304 805, et donc des lettres qui manqueraient, qui seraient en fait les lettres de ce livre caché, de ce livre secret.
Vayehi bin Soaron, vayomer Moshe.
Umo Hashem, veyofutzu oyvecho, veyonusu mesanecho miponecho.
Ki mitzion teitze toiro. Udevar Hashem
Yerushalayim
Oruch shel santero le'amo Yisroel
Vikdusha.
Il est temps pour moi de vous souhaiter un Shabbat Shalom. Que ce Shabbat, un Shabbat de solidarité, d'unité, le candélabre, qui est le premier sujet qui est dans notre paracha, était fait mikshachat, d'une seule pièce. Cette unité qui passe par aussi l'étude, puisque le candélabre, c'est le symbole de la lumière, le symbole de l'étude, cette unité à travers l'étude, que l'on retrouve aussi avec les trompettes. Hatzotzrot, les deux trompettes qu'il y a dans notre paracha, qui étaient aussi Bemikshacha, d'une seule pièce, et qui étaient là pour rassembler les enfants d'Israël. Alors, cette unité de ce rassemblement autour de la Torah, dans un sens de cette unité qui est forte, dans un respect du Shabbat qui aussi, Razad Echad, c'est le secret de l'unité, le Shabbat. Alors, dans un respect de ce Shabbat, dans une mobilisation pour se rendre à la synagogue ce Shabbat, peut-être encore plus qu'on a l'habitude, pour prier et pour de bonnes nouvelles, la libération des otages, il faut, malgré les situations, il faut surtout pas les oublier, c'est pas le moment, et de tous les chayalim et de bonnes nouvelles pour l'ensemble des béné Israël, que ce soit en Eretz Israël, que ce soit en dehors d'Israël, pour l'ensemble de toutes les nations. De bonnes nouvelles. Shabbat Shalom, Git Shabbes, Shabbat Shalom, Omevorach.
יקוים בהם הכתוב
אבינו אבינו שבשמיים צור ישראל וגואלו אבינו אבינו שבשמיים צור ישראל וגואלו
Merci Mevorar, Chag Sameach et Shabbat Shalom. Je vous rappelle qu'on vous retrouve tous les matins à 6h35 pour le Dvar Torah et le vendredi à 10h35 et à 15h05.
Radio J.
Bonjour, c'est Lise Gutmann.
Le 10-11, Lise Gutmann.
Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, Divertissement, Communauté.
Les cultures juives, ça se défend. Et les QG aussi. Soutenir les QG, c'est transmettre la richesse des cultures juives, lutter contre l'ignorance et renforcer une vie juive libre, ouverte et accueillante. Les 15 et 16 juin, on compte sur vous pour la première grande campagne d'appel aux dons de les QG.
Et votre impact est doublé.
Oui, chaque don compte tout.